YouTubercule.
Je vous présente Thierry, mon acolyte.
Vous n'y échapperez pas.
Eric. On s'appelle YouTubercule, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Et on adresse un salut fraternel à nos amis du nouveau parti anticapitaliste qui sont en face de nous.
Les éditions Fakir
et Picardie Debout
et YouTubercule présente
en collaboration avec Karl Kraus
les derniers jours de l'humanité.
Donc on va faire une émission pour parler du journal Fakir qui est là derrière nous avec l'équipe de Picardie Debout qui assure depuis quelques jours un tempo d'enfer. Et donc on est avec Cyril Pocréo qui est le rédacteur en chef de Fakir.
Bonjour.
S'est joint à nous Tristan Kemener qui lui est le directeur de Fakir.
Bonjour.
Donc on va attaquer avec Cyril parce que j'ai pris le nouveau Fakir, là, j'ai commencé à feuilleter, j'ai vu que tu as 4 articles dedans, donc tu es la chevrille ouvrière de Fakir.
En tant que rédacteur en chef, je suis obligé d'en faire un minimum, sinon ça se voit, et après je risque de me faire virer, donc je fais le maximum.
Tu parles de... il y a notamment un article sur l'urgence et l'arrière-cuisine, tu peux nous en toucher quelques mots?
Tu sais, dans Fakir, on raconte aussi, même surtout, notre cuisine interne. Ça fait partie de notre démarche et de la façon dont on travaille, c'est-à-dire qu'on parle de choses qui nous arrivent et on essaie de partir de là pour tirer des fils, faire des sujets un peu plus globaux et universels. Et c'est Magali qui travaille à l'administratif à Fakir qui me racontait qu'un un jour de canicule récemment, là, il y a une dizaine de jours, elle crevait de chaud dehors, mais elle va faire les courses parce qu'on allait boucler le journal. Donc il fallait qu'on ait de quoi manger pendant les longues journées et nuits du week-end. Et elle se retrouve dans un magasin climatisé, alors qu'il faisait 30 degrés dehors. Elle chope la crève, elle avait les orteils engourdis. Bon, je pense qu'elle a exagéré un peu, elle pensait qu'elle allait se les faire amputer, mais je pense qu'elle est allée un peu loin. Et en fait, ça m'a fait marrer sur le coup, mais après ça m'a ramené à ce que j'appelle notre... double urgence et la double tension qui nous traverse. C'est-à-dire qu'on est... Fakir, c'est un journal qui a été créé il y a 24 ans maintenant par François Ruffin et qui a toujours, au moins au début, fonctionné avec des bouts de ficelle. Et c'était un miracle permanent. Alors, si François était là, et il vous raconterait les temps glorieux et héroïques, mais que vous pouvez retrouver dans le numéro 100 qui en rentre derrière. Où la caisse de Fakir, c'était pas un compte en banque, c'était un sac monoprix dans lequel on mettait les fonds, les sous et les billets des quelques journaux qu'on vendait. Enfin, Fakir a très longtemps fonctionné avec des bouts de ficelle, on fait les courses nous-mêmes, le ménage nous-mêmes. Tristan, qui est directeur, il a son tour de ménage régulièrement. Et en face de ça, on a une montagne à gravir, à affronter en permanence, qui est une urgence écologique d'abord, puisque... Magali se retrouve, alors qu'on est en pleine canicule, elle se retrouve dans un magasin climatisé où il fait tellement froid que la caissière lui explique qu'elle doit porter en permanence une doudoune et des chaussettes, même en plein été. Et donc on est dans une espèce d'aberration écologique qui nous fait foncer encore plus vite vers le gouffre, avec la canicule dehors, mais à l'intérieur des climatiseurs qu'on produit, qui contribue à détruire encore plus rapidement la planète. On a cette urgence-là, on a l'urgence sociale avec les Restos du Cœur qui sont en faillite, le Secours Populaire qui est débordé, avec la Croix-Rouge qui est débordée, tout ça qui sont des signes de l'urgence sociale, avec un gouvernement qui nous amène encore plus vite, lui aussi, dans ce mur-là. Et voilà, et on a l'impression qu'on a nos bouts de ficelle et qu'on essaie de lutter contre tout ça, et c'est pas toujours évident, mais... c'est une espèce de rocher de Sisyphe qu'on pousse chaque mois ou tous les deux mois quand on essaie de sortir le journal. Ouais.
Alors vous luttez contre une forme de précarité sociale et écologique, mais il y a quand même l'exploité du mois. Et c'est toi qui t'en occupes de cette rubrique. Donc tu peux nous expliquer comment vous choisissez les gens que vous exploitez?
Le choix est difficile parce qu'on exploite beaucoup de monde. Quand je dis qu'on a tout fait avec des bouts de ficelle, c'est aussi qu'on a tout fait avec des bénévoles. Et aujourd'hui, Fakir fonctionne parce qu'on a des bénévoles qui sont là, qui sont derrière, qui donne des coups de main, qui envoie à nos milliers d'abonnés le journal, qui font les cartons pour préparer les commandes, qui sont là pour monter un stand comme celui-là, quoi. Ça a été beaucoup de boulot et j'en profite d'ailleurs pour les féliciter. Donc on a toujours eu plein de gens qui sont venus donner des coups de main à Fakir parce qu'ils ont suivi François, parce qu'ils ont estimé que c'était un engagement aussi social et politique. Et donc on pioche. On pioche pour faire le portrait de l'exploité du mois. Et ce mois-ci, c'était Zoé qui était stagiaire chez nous. Elle a été stagiaire pendant 3 mois, Zoé, à la rédaction. On prend rarement des stagiaires à la rédaction, mais elle avait beaucoup insisté. Et je me demandais pourquoi elle voulait à ce point mettre le doigt dans l'engrenage, elle y a mis tout le bras. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué dans les discussions qu'on a eues avec Zoé, c'est qu'elle a appelé en fait plein de gens qui nous signalaient des soucis, des problèmes qu'ils avaient, mais qu'on n'avait pas le temps de traiter parce que malheureusement, on est extrêmement sollicité. Souvent de la part de gens qui nous appellent à l'aide, mais on n'a pas les moyens, les forces de. Voilà, mais même si on a théorisé avec François. Et François le premier, le fait de passer de l'information à l'action, parce qu'on estimait que ça suffisait pas, juste d'informer, ça a donné Merci Patron, ça a donné le combat pour les AESH, pour tous les métiers du lien, mais il y a plein de sujets qu'on n'arrive pas à traiter, de gens qu'on n'arrive pas à aider. Et Zoé a appelé plein de ces gens-là pour recueillir leurs témoignages, et en fait, elle remercie Fakir quelque part, parce qu'elle s'est remise au sport grâce à Fakir. Pourquoi ? Parce que elle prenait une telle charge mentale à entendre les soucis des gens qui nous contactaient que elle explosait au niveau mental, ça allait plus. Donc elle s'est remise à courir plusieurs fois par semaine pour ça. Elle en était très contente, mais ça montre aussi quelque part qu'il y a un vrai besoin dans ce pays de gens qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être aidés et qui ont besoin d'appeler à l'aide, qui appellent à l'aide, mais qu'on n'entend pas et qu'on n'arrive pas à entendre suffisamment, même si on fait autant que possible de notre côté en tout cas.
Alors tu parles d'expérience de fakiriens qui sont à proximité de la Somme, d'Amiens, des stagiaires qui travaillent au journal. Il y a aussi tout un réseau qui couvre une bonne partie de l'Hexagone, de gens qui relayent Fakir. Tu peux nous en parler un peu ?
Ah ben, je vais peut-être laisser Tristan en parler d'abord, mais effectivement on a un réseau, on est organisé, on a un réseau de préfets, ce qu'on appelle nos préfets fakiriens, qui sont un peu partout, tu connais le rôle.
Ouais.
Ben je vais laisser Tristan parler, il a eu le temps de réfléchir maintenant.
Parler des préfectures, c'est à la fois simple et compliqué. C'est vrai qu'en fait, depuis tout ce boulot qui a été fait depuis des années, on a pu nouer tout un tas de contacts et des listes de contacts. Et au bout d'un moment, la question de se dire de qu'est-ce qu'on fait de ces contacts-là, de voir avec eux pour repartir sur le terrain, faire de l'action sur le terrain et donc de vendre Fakir à la criée, dans les marchés, un petit peu partout. Et donc on a toute une liste de préfets un peu dans chaque département. On a une boucle avec un peu plus de 50 personnes. Tous sont pas actifs, mais beaucoup le sont quand même. Et puis il y en a quelques-uns qui sont encore plus actifs que ce qu'il faudrait et qui nous sollicitent pour faire des événements, aller dans des marchés, bah comme Eric hein, qui parfois va sur des événements, vend du Fakir, et donc ça permet à Fakir d'être présent un peu partout dans des festivals où on ne serait pas forcément, parce qu'on n'a pas la capacité physique de se multiplier. Et c'est ça vraiment la force de Fakir, c'est d'être capable d'être présent un peu partout grâce à cette bonne volonté. Et voilà ce que c'est qu'un préfet fakirien.
Je précise d'ailleurs que cet après-midi, on aura 2 anciens préfets fakiriens qui seront là et qui sont devenus députés. Damien Maudet, qui a été préfet fakirien et qui est maintenant député de Haute-Vienne, et Christophe Bex, qui était le meilleur vendeur de Fakir et qui est maintenant député de Haute-Garonne.
Comme quoi, ça mène à tout.
Faut pas oublier Anne Stambach-Ternoir, qui est députée de Haute-Garonne. Et qui, alors, ça m'a embêté. Elle est devenue députée. Elle était fakirienne. Anne, en particulier, elle relisait et elle corrigeait tous nos papiers. Et elle est devenue députée. Alors, j'ai essayé de négocier avec elle qu'elle détache un de ses attachés parlementaires à la relecture de Fakir.
Pour corriger les fautes.
Visiblement, c'est pas trop possible au niveau légal. Mais bon, mais pour revenir sur les préfets, ce qui est important, c'est que ça donne aussi un débouché dans l'action. C'est-à-dire que c'est une manière de militer aussi d'être à Fakir. On n'est pas juste à Fakir pour transmettre de l'info. On est là aussi pour passer le cap, intervenir, être sur le terrain, nous faire remonter les choses du terrain, parce que ça, c'est important. On a besoin d'avoir des antennes dans la société, tous à notre niveau, pour ne pas se couper de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Mais Fakir, c'est aussi une école de militantisme et d'engagement, tout en étant fâché avec tout le monde ou presque. Et à un moment, on s'est dit que c'était bien beau de faire un journal, même s'il était lu par... même s'il avait 15 000 abonnés, qu'on vendait beaucoup en kiosque. Mais à un moment, face à la force de frappe de BFM ou de CNews ou de TF1, on était quand même loin derrière. Donc l'idée, ça a été de passer à autre chose et de passer à l'action. Et au moins au niveau local et au niveau personnel, ce qui déjà fait un bien fou, c'est quelque chose d'important de pouvoir militer pour Fakir, de distribuer Fakir et de porter le journal au niveau local.
Dans le numéro qui vient de paraître, là, j'ai vu que tu as travaillé sur un dossier éolien avec Camille Vandendrich. Vous êtes combien de journalistes à Fakir ?
On est 2 journalistes salariés et quelques pigistes qui interviennent dans chaque numéro. On a plusieurs pigistes.
Et les dessinateurs ? Parce qu'il y a du dessin dans Fakir. Hein. Il y a un choix éditorial qui fait que le dessin est mis en avant. Il y a combien de dessinateurs qui bossent avec Fakir ?
On a une petite dizaine de dessinateurs qui sont réguliers, dont certains sont devenus célèbres. Il y a Galien qui est là, je ne sais pas s'il est là toujours, il pourrait venir nous dire un mot. On a des dessinateurs qui ont des styles très différents, qui connaissent Fakir, qui aiment Fakir. Il y a Thibaut Soulcier qui a commencé à travailler pour Fakir et qui maintenant bosse dans à peu près toute la presse. Ça a été un choix déjà pratique pour le simple fait qu'on ne pouvait pas envoyer des photographes partout. Mais ça a été aussi un choix d'avoir envie de se marrer en fait. Et on a des dessinateurs de presse qui font des dessins marrants. Et on a envie de se marrer, on n'a pas envie d'être chiant. On n'a pas envie de se contenter de tribunes interminables. La base de Fakir, c'est de raconter la vie des gens, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et aussi de se marrer. Comme on dit, rigolo sur la forme mais sérieux sur le fond. Mais le rigolo sur la forme, on y tient beaucoup. De même qu'on voilà, on n'hésite pas à étaler nos doutes dans les colonnes du journal, nos cheminements intellectuels, personnels. C'est ça aussi qui fait la marque de fabrique de Fakir.
On sait que Ruffin a un emploi du temps très chargé, il est très sollicité. On l'a vu ce matin, il y avait environ 150 personnes qui étaient là pour l'écouter. Cette charge de travail depuis que Ruffin est député, qu'est-ce que ça change en interne à Fakir ?
La charge de travail, elle est toujours la même, mais disons qu'en tout cas au niveau rédactionnel et du canard, c'est moi qui en ai hérité d'une grande partie.
Spéciale dédicace et quand même.
Ce que je disais la semaine dernière à François, c'est que je mesure parfaitement aujourd'hui le stress mental auquel il a été soumis pendant toutes ces années, même si le sien était beaucoup plus important. Il a affronté 36 procès avant d'amener Fakir là où Fakir en est aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une grosse charge mentale de stress. On est toujours à... Ça m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en me disant non, mais le dossier, là, ça va pas. On va tout refaire. On va tout refaire. On boucle dans une semaine, mais on va tout refaire. C'est pas possible. Je sais que François se posait ces questions aussi en permanence. Bon, la différence, c'est que lui, il a une capacité de travail qui lui permettait d'écrire 10 pages en 2 jours. Voilà. Moi, c'est pas tout à fait mon cas.
Mais quand voilà. Tu parles de tout changer, ça veut dire quoi ? C'est que vous
on va changer le dossier, changer.
Ça plaît pas ou c'est complètement à côté de la
plaque ? J'ai l'impression. On est toujours en train de s'interroger. Il faut jamais se contenter de.
Il faut savoir se contenter de beaucoup, c'est ça ?
Voilà, c'est un peu ça. On peut jamais se contenter du ça me suffit quoi. On a vraiment des retours dithyrambiques des lecteurs. Vous nous aidez à avancer, vous nous aidez à militer, à avoir dans le dernier numéro, je crois que j'en parle. Vous nous aidez à avoir une lumière au bout du tunnel et tout. Et c'est une responsabilité parce que franchement, moi j'ai plus l'impression qu'on est une petite équipe de pieds nickelés, tu vois, qui fabrique un canard dans son coin et qui. Mais on s'aperçoit que c'est une vraie importance pour les gens ce journal, pour leur vie, pour. Voilà, et donc ça. Ouais, il y a une responsabilité, on sent le poids des responsabilités et donc on se pose des questions et on est toujours en plein de doute. Et ce que je disais, c'est que je crois que je l'ai dit dans ce numéro. Chaque sortie est un petit miracle, quoi. Mais c'est vrai, c'est un petit miracle.
Est-ce que le fait d'être abonné à Fakir donne droit à certaines réductions ? Est-ce que, je sais pas, vous avez des restaurants amis qui disent « Oh, si t'es abonné à Fakir, c'est demi-tarif, un pastis offert et tout. » On cherche des adresses, là, en repartant. Alors,
normalement, quand vous êtes abonné Fakir, bon, il faut avoir l'abonnement avec vous, mais vous avez moins 80% à la FNAC, vous avez moins 70% dans tous les cinés. Non, il faudrait peut-être qu'on développe ce genre de choses. Tristan va y réfléchir, c'est une bonne idée. Le sous-titre du canard, c'est fâcher avec tout le monde ou presque. Et c'est vrai qu'on a...
Ça serait une bonne occasion.
Ouais, de moins se fâcher, tu veux dire ?
Non, de plus se fâcher. Si tu vas au restaurant et que tu payes 50 balles au lieu de 200 en disant « Ah, mais je suis fakirien, toi !»
On a plein de trucs à faire. On aurait plein de modèles à inventer. Non, pour l'instant, les réductions au resto, on n'est pas le guide de routard, mais on va y penser. Tristan va y réfléchir. Voilà, ça te fait un dossier de plus.
Tu as fait aussi un article, L'Humain d'abord, où en fin de compte, tu nous relates François Ruffin au quotidien, quoi.
En fait, le truc, c'est que François, je le comprends, je le pardonne, je l'excuse, il a aujourd'hui moins de temps pour Fakir, forcément, même s'il écrit toujours dans le... dans le journal, mais je trouvais important de maintenir un lien entre un lien presque filial et charnel entre François qui a créé ce canard et les lecteurs. Donc on essaie de faire en sorte de se retrouver à chaque numéro avec François et de voilà, de manière un petit peu informelle et qui raconte. Alors souvent on part sur un thème et puis ça dévie complètement. Et là on voulait parler, je voulais qu'il me parle du plan Monet parce qu'il m'avait dit qu'il allait lire Jean Monnet pendant les vacances. Donc le père du plan à la française, ministre sous De Gaulle. Et je voulais l'entendre me parler de ça. Et puis honnêtement, je l'ai vu arriver fatigué. Je crois que la rentrée politique l'avait fatigué à François. Et voilà, et on a commencé à discuter du plan. Et puis en fait, il avait vécu un super moment la veille. Il était en déplacement à Dieppe chez son copain, le député Jumel. Il demandait, en fait, François demande à des gens qui étaient là, il y avait des éducateurs sportifs qui étaient là. Il est très attaché au sport, vous le savez. Il leur demande, est-ce que vous avez changé la vie de quelqu'un? Est-ce que ça vous est arrivé de créer le déclic chez quelqu'un et de changer la vie d'un gamin? Et les éducateurs qui font... Honnêtement, c'est des gens avec les AESH, avec les assistantes de vie sociale. C'est des gens qui tiennent le pays, mais fondamentalement. On est au bord de l'implosion en permanence et le pays ne tient encore que grâce à des gens comme ça. Et les éducateurs, ils font un peu la moue. Ils font, faut être modeste. Nous, on fait ce qu'on peut. On écope. Mais et puis alors François dit non, ne soyez pas modeste, quoi. Vous changez la vie des gens, dites-le. Il y en a un qui raconte que récemment, il y a une armoire à glace qui vient le voir sur le. Il était en train de boire un coup sur le port. Il y a une armoire à glace qui vient le voir avec un regard un peu méchant. Le gars, il était pas rassuré. Et en fait, le gars lui dit, l'armoire à glace lui dit, mais je sais pas si tu te souviens de moi. Mais t'as été mon éducateur au foot. Et un jour, j'ai foutu un coup de pied dans un plot de colère comme ça. J'étais énervé, j'allais pas bien. Et tu m'as repris, tu m'as dit que c'était pas bien, tu m'as fait tout un discours. Et bien aujourd'hui, 20 ans après, je suis chef d'entreprise et je pense que c'est grâce à toi. Et en fait, on se rend pas compte à quel point de petites choses parfois peuvent changer la vie des gens. Et je sentais au fur et à mesure de la discussion que Ruffin, ça le remettait d'aplomb de raconter ça, quoi. Lui, quand il va sur le terrain, quand il voit les gens, c'est toujours un bol d'air, une respiration. Et donc on a fini en convenant que finalement le plan à mener, c'était ça, un plan pour l'humain. L'humain d'abord, quoi. Ce qui est un slogan communiste d'ailleurs à la base. Mais l'humain d'abord, et faire un grand plan pour l'humain, c'est sans doute ce qu'on aurait de mieux à faire pour changer un peu nos vies, quoi.
Alors quand on lit Fakir régulièrement, on sait que Fakir est très présent sur le social, sur les luttes. S'est mis, je dirais peut-être un peu plus récemment, sur l'écologie. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres pour vous à l'heure actuelle? Est-ce que vous dites, c'est vrai que sur l'écologie ou sur le féminisme ou sur... Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus... plus délicat?
On raisonne pas en termes de sujet, on raisonne en termes d'histoire qui nous arrive, quoi. Là, par exemple, on parle des éoliennes dans ce numéro. Pourquoi? Parce que y a Camille qui va voir un copain à lui cet été, quoi, au début de l'été, un gars qu'il était déjà allé voir l'année dernière. Et le mec est super emmerdé parce qu'ils peuvent plus faire de partouze dans les bois. T'aurais pas dû aller jusque-là, Eric, mais... On parle de partout de chauves-souris, en fait.
Ah, pardon.
Et en fait, le gars est très attaché à sa famille de chauves-souris qui fait des partout dans le bois d'à côté. Sauf qu'un projet de 6 éoliennes qui a été accepté et qui va être construit là, quoi. Et donc, il monte une association contre les éoliennes. Et donc, on tire le fil. On tire le fil, on en vient à parler d'écologie et des éoliennes à cause de ça. Parce que spontanément, on se dit, les éoliennes, on est pour. Puis on va bien devoir trouver une solution pour ne plus foncer vers le mur climatique, pour baisser la consommation d'énergie fossile, pour baisser la consommation de nucléaire. On peut être pour, mais pourtant, il y a beaucoup d'opposition en local. Et donc, c'est un paradoxe, moi, qui me travaillais depuis un moment déjà. Et comme je te disais, on met aussi en scène nos doutes et nos paradoxes et les mystères qu'on essaie d'élucider dans ce journal. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit, en allant voir ce gars, Jean-Christophe, qui est du côté de Lyon, en allant voir d'autres gars en Normandie, que finalement, l'opposition aux éoliennes, c'est pas forcément pour la vue. Les gars, ils disent, moi, j'ai des arbres qui vont me cacher la vue des éoliennes, on s'en fout. Il y a un problème, un sentiment de déclassement démocratique. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas comment vont s'implanter les champs. C'est pas discuté localement. Il y a aucune consultation des populations locales. En revanche, ils s'aperçoivent assez vite que tous les profits vont retomber et vont être confiés, et les champs d'éoliennes vont être confiés à des grands groupes, aux Espagnols d'Iberdrola, à General Electric, à des grosses multinationales comme ça, et il y a un sentiment non seulement de déclassement démocratique, mais également de privatisation de quelque chose qui pourrait leur apporter beaucoup. Et il y a des gens qui nous disent, ils ont privatisé l'eau, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à nous privatiser l'air, quoi? Il y a des groupes qui font dans la nitroglycérine, dans les hydrocarbures, qui se mettent à faire de l'éolien parce qu'ils savent que c'est très rentable. Et voilà, on est parti de ce paradoxe-là. Après, évidemment que les sujets écologiques, ça nous touche et qu'on en parle. Et que, voilà, tu sais, il y a plus de 10 ans, on a fait une qui s'appelait « Devenez bolchevique », avec un bolchevique avec un concombre entre les dents, non pas un couteau, mais un concombre. On sait depuis longtemps que ce paradoxe du rouge et du vert, on va devoir le concilier et qu'on arrivera au rouge et au vert ensemble et que ça devra faire un beau mélange, quoi.
Par rapport à l'éolien, quand tu discutes avec les gens qui sont confrontés à des projets éoliens, ils ont vraiment l'impression de faire payer à la ruralité le confort du citadin, quoi. Parce que très rarement, l'électricité produite est diffusée localement. Elle est raccordée au réseau et ça sert. Et quand tu habites dans un petit village, quand il faut un champ d'éoliennes à proximité de chez toi, juste pour savoir qu'à 30 km, ils vont avoir de l'électricité pour éclairer des parkings toute la nuit, là déjà, ça les gonfle un petit peu.
Ouais, mais ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on revient dans le dossier et sur lequel il va falloir qu'on change. Parce que si on veut parler de production d'énergie décentralisée et différente, il va falloir qu'elle soit décentralisée. Ce qu'on oublie, c'est qu'à une époque, les forêts dans le Morvan, elles servaient à couper du bois, à faire du charbon et à produire de l'énergie aussi. Sauf que c'était pas visible parce que c'était des forêts. Aujourd'hui, c'est visible parce que c'est des panneaux solaires, c'est des champs d'éoliennes. Et il va falloir qu'on accepte aussi ce genre de désagrément si on veut raisonner localement et en termes de production délocalisée d'énergie. Une centrale nucléaire, elle est très peu visible finalement, à part pour les gens qui sont juste dans le coin. En 86, Tchernobyl, t'es comme vous, moi, assez ancien pour t'en souvenir. On nous avait expliqué que le nuage s'était arrêté aux frontières.
Mais parce qu'à l'époque, on avait des douaniers efficaces.
Voilà, on en a plus aujourd'hui. Voilà, les conséquences sont globales. Il faut accepter qu'on ait une production énergétique aussi qui soit décentralisée et visible. Et il y aura des désagréments de toute façon, c'est sûr.
Oui, je veux bien accepter l'idée qu'on mette de l'éolien et qu'on mette du solaire un petit peu partout. Je m'interroge quand même sur la logique que ça induit, c'est-à-dire toujours produire de l'électricité pour la consommer, quoi. Ça serait bien qu'on réfléchisse aussi en consommer moins, quoi.
De toute façon, à l'horizon 2050, si on veut arriver, comme c'est le plan de sobriété énergétique français, à zéro émission carbone en 2050, on a forcément, dans ce paradoxe-là, dans cette équation-là, une baisse de la consommation. On va être obligé d'aller vers de la sobriété. Mais ça ne suffira pas. Il faudra qu'on produise localement en énergie renouvelable. La question, c'est est-ce que ça va être privatisé? Est-ce que ça va être contre les populations et confié à des grands groupes? Ou est-ce que ça va être de vraies décisions démocratiques et locales et une production qui va être reprise en main par l'État? Parce qu'on a tout lâché. Aujourd'hui, on parle le nec plus ultra. Aujourd'hui, justement, pour éviter les problèmes de voisinage, c'est le offshore. L'éolien offshore, donc en mer, est très loin. Le problème, c'est que aujourd'hui, les éoliennes les plus puissantes, elles sont produites par General Electric. Comment General Electric a récupéré ce portefeuille des éoliennes les plus puissantes? En rachetant Alstom. Et Alstom, c'est un scandale d'État. Alstom, c'est une boîte qui, en 2012, voulait être vendue par Bouygues. Personne n'est d'accord au gouvernement, personne n'est au courant. C'est Macron, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, qui s'empare du dossier, qui le cache et qui, pour rincer toute une série d'intermédiaires, et ce que je dis là, ça a été vérifié et ça a été prouvé par un rapport d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, l'affaire est devant les tribunaux. On parle même de pacte de corruption. Il fait en sorte, pour rincer toute une série de banques et d'intermédiaires, que Alstom soit dépecé et vendu à General Electric. Et aujourd'hui, cette technologie-là qui permettrait de choisir d'avoir notre destin en main, de choisir ce qu'on va faire au niveau local et comment on va produire de l'énergie, on ne peut plus le faire parce qu'on a vendu en sous-main les bijoux de famille. C'est ça la question. Qui va avoir le contrôle là-dessus? Qui politiquement va choisir ce qu'on fait de l'énergie et donc de notre futur, quoi?
Mais comment ça se fait qu'ils n'en aient pas parlé, Domoran et Salamé?
Je sais pas, j'écoute pas toutes leurs émissions, je dois t'avouer. Et de moins en moins même.
Oh, l'autre jour, ils ont accueilli Édouard Philippe. Hein. Oh là là, on aurait dit des sauvages. Hein. Oh le pauvre.
C'est vrai?
Ouais, c'était terrible.
Je vais être, puisque tu me lances là-dessus, au moment de la vente d'Alstom, donc, en gros, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Bouygues, qui est un copain à lui, veut vendre Alstom. Macron enterre le truc. Il le garde sous le coude, il commande un dossier en secret dans le dos de Montebourg et il commande un rapport sur le meilleur moyen de dépecer Alstom. Et il travaille dans l'ombre pendant 2 ans sur ce projet-là. Je vous lis un passage du rapport parlementaire qui a été fait en guise d'enquête. Beaucoup d'intermédiaires y trouvent leur intérêt. 10 cabinets d'avocats, 2 banques conseils, Rothschild, Bank of America, Merrill Lynch, 2 agences de communication, 3 banques conseils, Lazar, le Crédit Suisse et la Bank of America, l'agence de communication Havas et de nombreux cabinets d'avocats. Pendant 2 ans, Macron cache qu'il y a ce projet qui est en cours et quand Montebourg s'en aperçoit, beaucoup trop tard, il tente à la dernière minute un décret pour mettre le veto de l'État sur cette vente de quelque chose qui est stratégique, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, les éoliennes les plus puissantes et les plus économiques sont vendues, appartiennent à General Electric. C'est trop tard. Alstom est vendu en 2014 et Bouygues récupère 1,6 milliard. Et Hugues Bailey, qui est alors conseiller industrie de Macron, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Qu'est-ce qu'il va devenir directeur général France de General Electric? Aujourd'hui, l'affaire est devant la justice. Effectivement, personne n'en parle. Mais bon, c'est pas les médias de Bouygues qui vont en parler. C'est pas les médias de Bolloré qui vont en parler. C'est pas les... On en parle dans Fakir. Il y en a d'autres qui vont en parler, heureusement. C'est devant la justice. Macron, quand on lui en parle, on lui en a parlé il y a 1 an et demi, quand il a présenté son grand plan pour l'éolien en France, on lui a remis la vente d'Alstom sous le nez. Il a balayé ça en disant que c'était des choix industriels, alors que lui a théorisé, aujourd'hui il se fait le chantre de la réindustrialisation, tu sais, il n'a plus que ce mot-là à la bouche, alors que le gars pendant des années... Pardon, le gars, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fait le... Non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. S'est fait le chantre d'une France sans usine, quoi. Tout ça, c'était crade, c'était sale, fallait exporter... non seulement l'industrie pour en faire baisser les coûts salariaux, mais aussi les coûts écologiques, parce que je vous dis pas, on a fait des dossiers récemment là-dessus sur le coût écologique quand on fait produire les médicaments à l'étranger, qu'on fait produire les bagnoles à l'étranger. Il fallait débarrasser la France de tout ça et faire une France fabless, sans usine. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est à poil. On est à poil dans tous les domaines. On n'est même plus capable de construire des bateaux pour amener les mâts des éoliennes et les pales des éoliennes en mer, pour mettre des éoliennes en mer. On ne sait plus le faire. Donc on a une longue pente à remonter, mais tout ça, au-delà des mots de Macron, tout cela, c'est une politique qui est prévue, qui est pensée, pas depuis 1 an, pas depuis 6 ans. Macron, il est dans les cercles d'influence du pouvoir depuis 2007, depuis qu'il est rapporteur de la Commission Générale Attali. 2007, ça fait, on est en 2023, c'est ça? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que Macron dicte la politique en France. Et on est à la rue. Et aujourd'hui, on est à la rue.
Tu nous as parlé des problèmes de justice. Où en est cette histoire de fakir espionné, fakir libéré?
Moi, j'écris et tous les dossiers de merde, c'est Tristan qui les gère. Tous les problèmes, voilà, c'est Tristan qui les gère. Alors juste avant de laisser la parole à Tristan... Pour savoir, à l'époque de Merci Patron, Fakir et François Ruffin ont été espionnés par Bernard Arnault et LVMH pour le compte, en faisant bosser Squarcini, l'ancien des services secrets, pour savoir quel était l'immense péril qui allait inquiéter le groupe LVMH et Bernard Arnault, à savoir une banque de pieds nickelés qui faisait un documentaire sur eux. Mais je laisse la parole à Tristan pour les dossiers merdiques.
Oui, ce dossier merdique-là, il va aller rapidement. En fait, on est allé, du coup... alors, pour ceux qui savent, qui sauraient pas comment ça s'est passé, donc, effectivement, il y a eu cette histoire d'espionnage, hein, qui était... Enfin, voilà. Et donc, on a porté... Alors, ce qui s'est passé, avant même qu'on porte plainte, c'est qu'il y a eu un accord entre la société LVMH et le juge. Donc, LVMH a payé 10 millions d'euros... Pour se percher, pour dire voilà, écoutez, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'arrange, je vous file 10 millions et puis derrière c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Ils ont payé 10 millions mais du coup ils ne sont même pas considérés comme coupables. Il n'y a juste pas de procès, on n'en parle pas.
Ouais, pardon Tristan, faut vous donner une idée. Quand ils donnent 10 millions d'euros pour que les poursuites s'arrêtent, si on le rapporte à sa fortune, et je vais essayer de la rapporter à la vôtre, ça fait à peu près 2 euros. Ok, avec 2 euros, je pense que vous ne payez même pas une saucisse frite à la fête de l'UMA aujourd'hui. Donc voilà, pour l'équivalent d'une saucisse frite, il a obtenu de la justice de ne pas être poursuivi.
C'est ça, c'est-à-dire que pour 2 euros, c'est comme si vous étiez allé chez votre voisin, vous aviez espionné pendant des mois et des mois tout ce qui s'y passait, mais si vous aviez mis des vidéos, des caméras, etc. Et puis à la fin, on vous attrape et vous dites « Ok, bon, bah allez, 2 balles et c'est terminé, quoi. » Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a fait des recours, on a fait appel, et là le dernier appel en date, c'était au Conseil d'État qui nous a débouté. J'ai reçu la lettre, il y a 3-4 semaines. Elle est encore sur mon bureau d'ailleurs, je l'ai même pas classée, mais on le savait en fait, c'était vraiment un baroud d'honneur, et c'est pour essayer d'en parler, faire en sorte que voilà, les gens s'en emparent un peu. Mediapart en a un peu parlé. Mais oui, ça intéresse pas beaucoup. C'est vrai que
ça intéresse pas la justice, en fait.
La justice, la justice, ce qu'elle dit, c'est que c'est légal. Voilà, ce qui a été fait est légal. Et à partir du moment où c'est légal, c'est terminé. Il y a rien à dire. Et ah oui, alors non, ce qui est beau, c'est que le juge a dit quelque chose. Il a dit une phrase. Il a dit non, mais attendez, regardez, ça fait de la liquidité dans les caisses de l'État. 10 millions quand même. On se dit bon bah merci, ouais, merci pour les caisses de l'État, et puis mais bon, moi je trouve ça absolument scandaleux parce que ça fait de la liquidité rapidement dans les caisses de l'État. Si on avait dû faire un procès, ça aurait traîné, etc. Voilà, et puis ça aurait coûté cher aux contribuables de faire un long procès. Là ça coûte pas cher parce que ça va vite, et derrière on récupère 10 millions. Bon, moi je pense qu'il aurait mieux valu un long procès, et qu'on récupère et puis encore une fois, même pas pour Fakir, hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour Fakir que je dis ça, parce que oui, Fakir n'a pas touché un seul centime dans cette affaire, mais c'est aussi pour nous, puis pour une question de justice, c'est-à-dire qu'il faudrait pas que des gens comme Bernard Arnault se disent voilà, ils ont des médias de partout, ils peuvent dire absolument ce qu'ils veulent, faire passer les idées qu'ils veulent à travers leurs médias, avec la concentration des médias. Là, je ne sais plus si vous avez vu cette stat, mais le groupe de presse qui est le plus subventionné, c'est quand même le Parisien. Je ne sais plus combien ils touchent, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est scandaleux. Nous, à Fakir, quand Macron arrive en aide à la presse, parce qu'on n'a aucune pub, on touche à environ dans les 50 000 euros par an. Ce qui est déjà pas énorme, mais ça aide quand même. Et là, en 5 ans, aujourd'hui, on touche. L'année dernière, on a touché 22 000 euros. Donc, ils nous ont coupé à peu près 30 000 euros d'aide à la presse. Et puis, ce qui se passe, c'est ça, c'est que Bernard Arnault, aujourd'hui, est-ce qu'il est au-dessus des lois ? C'est la vraie question que ça pose, en fait.
Le problème, c'est pas la justice. Le problème, c'est la loi. Finalement, la justice, elle va faire ce que le politique veut lui permettre de faire. Cet accord qui est très anglo-saxon dans son inspiration, de dire « je paye pour échapper à un procès », c'est permis parce qu'il y a des lois qui sont passées en ce sens. Et il y a toute une série de lois qui ont été passées qui restreignent le champ des libertés démocratiques, en fait. Au début du premier quinquennat Macron, on a eu droit au secret des affaires. Alors là, c'est formidable. On ne peut plus parler d'aucune boîte, une boîte de pétrochimie. Une boîte de pétrochimie va polluer quelque part en France au moment où cette loi est sortie. On ne peut pas en parler. Secret des affaires. Est-ce qu'ils ont le droit de polluer ? Oui, non. Secret des affaires. On ne peut plus parler de rien. Après, je pense que ça n'empêchera jamais les gens et les lanceurs d'alerte d'émerger et de parler et de se lever. Mais maintenant, les boîtes en face, les firmes en face, en plus des moyens de coercition énormes qu'elles ont, on parlait de Bernard Arnault et de qui embauche Squarcini, quoi. Le mec qui était à la tête des services secrets français, qui était l'ombre de Pasqua. Je veux dire, Bernard Arnault embauche un mec comme ça. En plus de tous ces moyens financiers immenses qu'ils ont, ils ont la loi pour eux. Donc parfois, il faudra savoir aller contre la loi aussi, quoi.
Là, on est en 2023, donc Fakir a 24 ans. Comment se porte Fakir en termes de chiffres, de ventes, abonnés et...
Pour préciser le cadre, pour de la presse alternative, on se porte très très bien, on vend très très bien, et on n'est pas menacé de disparition à court terme. Faut pas se leurrer, on a toute une série d'actions qui sont portées par des bénévoles et qui coûteraient très cher si c'était pas le cas. Après, au niveau des ventes, c'est fluctuant. On a évidemment connu un sommet après Merci Patron, où le nombre de ventes en kiosque et d'abonnés a doublé. On est redescendu un petit peu après, on s'y est maintenu, on est redescendu, on est remonté il y a un an, on est redescendu là, on fait un petit peu le yo-yo. Pourquoi ? On sait pas. Parfois, tu sais, il y a des numéros qu'on sort, je râle un peu, bon, je suis jamais très content, moi, en fait, hein, pour le journal, mais aussi dans la vie en général, j'ai un côté un petit peu râleur. Et parfois, il y a un numéro qui sort que je trouve pas super, en tout cas pas comme je l'aurais aimé, et qui se vend très bien. Il y en a un d'autre qu'on trouve très réussi et qui se vend pas bien. Alors, ça ramène déjà à une certaine humilité. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir ce qu'on va devenir après. On est en train de refaire complètement un site internet, notre site internet, pour que ça débouche sur autre chose, pour mettre du contenu en ligne, pour passer un nouveau cap. Tu sais, on a passé un cap avec... avec Merci Patron, avec les films. Paradoxalement, quand François est devenu député, ça nous a plutôt desservi qu'autre chose. Parce qu'avant, c'était le meilleur VRP de Fakir. Au début de son mandat de député, il présente Fakir dans son bureau. Le journal venait de sortir. En plus, c'était même pas pour faire de la pub au canard. C'était pour parler d'un sujet dont il voulait parler, dont on parlait dans le journal. Et il s'est pris une amende. C'est pas grand chose, je crois que c'est le député qui a pris le plus d'amendes sous l'histoire de la 5ème République. Tout ça pour dire que non, il peut quasiment plus parler de Fakir en fait. Et c'est vrai que c'était un bon VRP, c'était un bon vendeur de rue, c'était aussi un bon VRP. Quelque part, le fait qu'il devienne député, ça nous a fait perdre de la visibilité. On va essayer d'en gagner autrement, différemment, et d'être utile et toujours plus utile autant qu'on pourra. Quoi.
Fakir, c'est pas uniquement Ruffin et des journalistes, il y a aussi des petites mains. Vous êtes combien de salariés dans la structure ?
9, une petite dizaine, ouais.
Ouais, 9 salariés, ouais.
Et c'est qui les autres, alors ?
Là, ils bossent.
Ils bossent.
Il y a Pascal et Magali qui font les envois, de manière générale, l'administratif. Il y a Fabien qui va plus s'occuper des bénévoles justement sur le terrain en faisant les comptes, etc. On a Elena qui est journaliste, Camille et Cyril. Et je sais pas si j'ai fait le compte là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ?
Non, je crois qu'on y est à peu près. Il y a Tristan aussi, mais c'est les bénévoles quoi. C'est franchement l'arrière-cuisine, c'est les bénévoles. Je dis, on en a plein qui viennent faire les cartons sans arrêt chaque fois qu'on a. C'est des trucs tout bêtes et on oublie à chaque fois la bataille des retraites. On est très fiers d'avoir été les premiers avec les camarades de reporters à avoir réuni toute la gauche contre la bataille des retraites. Borne, elle faisait son intervention sur TF1, je crois, au 20h. À 20h30, on commençait une réunion avec 1200 personnes à Paris, à la salle Olympe de Gouges. Voilà, parce qu'il y a des bénévoles derrière. Et derrière, on imprime un 4 pages qu'on distribue gratuitement à 200 000 exemplaires à travers toute la France. Ben, ces 200 000 exemplaires, il a fallu les envoyer, quoi. Ces 200 000 exemplaires qu'on envoie, nous, qu'on met dans des cartons, un par un, et qu'on envoie dans toute la France. Donc, on a tout ce réseau de bénévoles. On a des gens qui font des choses qu'on voit pas. On a Nicole qui répond à tous les gens qui écrivent à Fakir. Ils reçoivent tous une réponse de Nicole. Heureusement qu'on a des gens comme ça derrière pour faire tourner la boutique aussi.
C'est peut-être une bonne affaire, en fin de compte. Macron, avec sa politique de droite, ça met les gens dans la rue et ça augmente les abonnements, non ?
Paradoxalement, en tout cas, ouais. Pour les retraites, ça nous a pas. On a fait un super numéro, vraiment, et on en était vraiment fiers, on l'a poussé à fond. Il s'est un peu moins bien vendu que les autres, donc tu vois, pas forcément. Mais en tout cas, nous, ça nous plaît d'être dans l'action, d'être là et d'accompagner les gens, ça c'est certain.
Tu sais, je pense qu'on peut pas se contenter d'une colère, en fait. On peut pas se contenter de se dire on a 3 millions de personnes dans les rues, on va bien vendre. Je pense qu'un journal comme ça fonctionne si on arrive à proposer un débouché derrière, un débouché politique derrière. On ne peut pas se contenter de constater les problèmes des gens et de les relayer. C'est un pas super important, tu vois, de donner la parole aux gens qui ne l'ont jamais, quoi. Et qui puissent s'exprimer, qui puissent voir que leur parole compte et qu'elle est écrite. Moi, je me souviens de plein de témoignages de gens qui étaient tellement dans les difficultés qui finissaient en burn-out, qui étaient à l'hôpital, mais qui voyaient à l'Assemblée nationale un François Ruffin qui citait leur nom et qui revivaient, quoi. Et qui revivaient. Et j'espère que Fakir remplit aussi ce rôle. Mais ça ne peut pas être que ça. Il faut qu'on propose quelque chose derrière, des solutions, une sortie de crise, un espoir, le fait de rassembler des gens, tu vois. Il faut qu'on arrive à proposer un horizon et un débouché politique. Si on y arrive, on embarque du monde. Si on embarque du monde, on aura des abonnés, on aura plein d'argent et on se paiera notre jacuzzi, quoi. Parce que c'est le but ultime, quand même. Qu'on arrive à s'acheter un jacuzzi pour les locaux de Fakir et ça fait 20 ans qu'on cherche ça et voilà. Le vrai but, c'est ça, en fait. Toutes les conneries qu'on raconte, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est se payer un jacuzzi.
Bah, puisqu'on termine dans la légèreté, toi qui es gersois d'origine, comment on passe du magret à la betterave ?
Je ne suis pas passé du magret à la betterave. Je préfère toujours le magret. J'en suis désolé pour mes amis amiénois. En fait, derrière toutes les questions, il y a des questions plus sérieuses, quoi. Comment on choisit ce qu'on fait, en fait ? J'en parlais, je me souviens, il y a des années avec François. Je crois que c'était avant Merci Patron, donc vous voyez. Et en fait, on a une formation assez classique, école de journalisme, tout ça. Et tu viens d'une classe moyenne plus, quoi. Tu as petite bourgeoisie intellectuelle, tout ça. Et en fait, la question à un moment, c'est que tu te poses, c'est au service de qui tu te mets, quoi. Est-ce que tu vas aller bosser pour Le Monde ? Est-ce que tu vas aller bosser dans tel ou tel média, essayer de faire carrière ? C'est un truc qui se présente au début, que tu fais au début, mais qui, moi, m'a rebuté assez vite. J'étais militant par ailleurs. Et j'ai milité à Fakir de manière bénévole au début et vraiment en vendant des journaux à la criée et en étant journaliste à côté pour d'autres médias. Et en fait, à un moment, tu te demandes au service de qui tu te mets, tout simplement, quoi. Et quand tu as un canard comme Fakir qui te permet de concilier ce que tu sais faire de mieux, parce que finalement, je sais pas faire grand-chose à part le journalisme. Moi, quand j'essaie de planter un coup chez moi, je me pète le doigt et je recommence derrière, mais je me pète un deuxième doigt. Donc, quand tu sais pas faire grand-chose d'autre, c'est quand même chouette d'avoir un canard qui te permet de concilier tes aspirations et tes envies de militantisme et de faire bouger les choses et tes envies d'humain avec ce que tu sais faire, quoi. Donc finalement, le choix a été assez simple.
Merci. Ouais, merci Cyril.
À toi.
Un bel entretien. Donc voilà, vous avez découvert le rédacteur en chef de Fakir, le directeur de Fakir. On pense à tous les bénévoles et les copains qui sont sur les bords, derrière, à ceux qui font la bouffe aussi derrière, à ceux qui ont tout installé, qui ont amené la sono, les barnums et compagnie. Et puis n'hésitez pas à aller acheter quelques bouquins, leur faire un bisou, acheter un badge ou un film, et puis aller voir Picardie Debout aussi et boire une bonne bière.
Les derniers jours de l'humanité.
Pensez surtout à aller acheter. Alors, on a un monsieur là qui nous a acheté plein de trucs tout à l'heure. Il les a déjà tous lus, il paraît que c'est super. Et on a tous les bouquins de François, tous les bouquins de Fakir, les derniers numéros. Et on a plein d'autres trucs super chouettes sur le stand à partir de 3 euros. Donc voilà, on vous y attend. A tout de suite. Merci beaucoup.
Vous n'y échapperez pas.